tous, l'été avance et la grande table suit de près les événements qui le traversent. À 13h50, François Sureau sera notre guide au bord de la Seine dont ils sont de les énigmes aquatiques et terrestres. Mais avant cela, nous allons parler du visage qui fait monter la colère, jaillit de la bombe des artistes et se décline sur les murs du monde entier, celui de George Floyd. Le 25 mai dernier, l'homme noir de 46 ans est plaqué au sol, le genou de l'agent sur le cou. La vidéo d'une passante saisira la phrase « I can't breathe » et l'image du visage qui s'éteint, de l'homme devenu immobile. Depuis, le visage ne cesse d'être ressuscité par la main des artistes, l'index appuyé, symbole d'une lutte pacifique contre le racisme. Sur le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, deux Floyd peints par le palestinien Takis Patin. Sur celui de Nantes, la fresque du collectif Black Lines. Ils sont ici, autour de la grande table, en compagnie de l'historien Nicolas Martin Breteau. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Bessery.
Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Nicolas Martin Breteau, vous êtes historien des États-Unis, maître de conférences à l'Université de Lille, et vos recherches portent sur l'histoire afro-américaine et l'histoire du racisme. D'abord, peut-être quelques mots de l'affaire Floyd et de Black Lives Matter.
Oui, cette affaire de violence policière a donné un nouveau souffle au mouvement Black Lives Matter, qui aujourd'hui a presque une dizaine d'années, puisqu'il est né en 2013. Et était né donc à cette époque, justement à la suite de révélations publiques de violences policières sur des personnes noires, en particulier de jeunes hommes de milieux populaires. Et l'affaire Floyd, évidemment, est quelque chose qui a suscité un émoi non seulement national aux États-Unis, mais international, avec des manifestations y compris en France. Et donc a donné un nouveau souffle au mouvement Black Lives Matter.
Alors avec des images qui se déclinent notamment sur les murs. Là, ce qui est Inven Kebadian, vous faites partie, vous êtes le comité, le collectif Black Lines. Alors vous avez décidé vous aussi de représenter George Floyd, entre autres fresques. Peut-être d'abord quelques mots sur ce choix et sur la manière de travailler de votre collectif.
En fait, nous...
Lask
Bonjour déjà.
Bonjour.
On a juste... ça s'est fait un peu naturellement. Ce qu'on a, on a commencé à vouloir, enfin, on a traité, on voulait traiter des sujets d'actualité, et on est, ah, je suis vraiment désolé.
C'est, vous travaillez.
Ouais, non, voilà, on voulait traiter des sujets d'actualité et revenir à des choses, comment dire, à l'origine du graffiti en fait. Donc, ça nous paraissait naturel de traiter ce sujet qui était important à nos yeux.
Inven Kebadian.
En fait, on a lancé le mouvement Black Line, parce que c'est pas tellement un collectif, puisqu'on appelle plein d'artistes à nous rejoindre. On l'a lancé en mai 2018, et il y a pour l'instant plus d'une 150 d'artistes qui sont venus participer. Donc à chaque fois, on lance un thème qui fait réaction à l'actualité.
Vous travaillez quasiment en temps réel par
en
rapport
réel.
À cette actualité.
En fait,
peut-être vous pouvez nous expliquer.
Voilà, nous, l'idée, c'était de créer comme un Twitter, sauf qu'au lieu que ce soit sur les murs Facebook ou sur les murs des réseaux sociaux, que ce soit directement dans la réalité. Bon, pour George Floyd, on s'est décalé parce qu'on n'est pas en Amérique, mais le premier mur qu'on avait fait en imaginant qu'on allait continuer l'idée de Black Line, c'était Kevalmi sur le Fluctuate Nec Mergiture. Voilà, en fait, il y avait cette fresque qui avait été faite pour les attentats. Donc c'était comme une commande un peu de la mairie et c'était un moment où tout le monde était recueilli à cet endroit-là, d'unité nationale. Et ensuite, il y a eu Nuit Debout. Et le mur a été régulièrement repeint, il restait plus que le Fluctuate.
Et c'était qui est considéré comme une sorte de censure par les artistes, hein, les murs nettoyés, le mur repeint.
Voilà, alors là, ça était, pour l'instant, c'était juste le mur avant qu'on intervienne, il restait plus que la phrase des autres. Donc nous, on s'est dit, on va peindre ce qui est en train de se passer, Nuit Debout, et la manifestation du syndicat de police. On savait qu'il y aurait un affrontement. Et Lask, lui, a peint une Marianne avec une veste en cuir et un cocktail. Et moi, j'ai commencé à peindre l'émeute, et la voiture s'est fait incendier dans notre propre rue. Donc du coup, on l'a peint en temps réel. Moi, j'ai peint en premier plan, avec les gens en train de l'incendier. Et à partir de là, les CRS sont venus, il y a eu la télé russe et tout ça qui suivait l'événement. Et la fresque a été censurée trois heures après.
Première censure,
c'était le premier cas sur un mur autorisé, surtout aussi rapidement, parce que c'est quand même un mur de 20 mètres de long, sur 2 mètres 50 de haut. Il a été censuré quelques heures après. Et à partir de là, on s'est dit, on a la sensation qu'on est plus en phase avec le réel. On garde quelque chose du graffiti, qui était de faire effraction au réel et d'être là où les gens le voient. Sauf que là, maintenant, on repeint le réel dans le réel.
Alors l'idée, c'est que les images médiatiques ont créé, Nicolas Martin Bretot, beaucoup d'images. Et c'est la particularité de cette affaire Floyd, notamment, c'est que les images ont été filmées en temps réel aussi. Il y a cette vidéo de cette passante qui va à l'encontre de ce qui a été dit par les policiers. Et ils n'étaient pas armés. Et on voit la scène se dérouler. D'ailleurs, une scène extrêmement violente qui a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier.
Absolument. Ce qui vient d'être dit est très intéressant parce que le mouvement Black Lives Matter se fonde en fait sur une révolution technologique, la révolution des réseaux sociaux. De la même façon que le mouvement pour les droits civiques des années 50 et 60 était fondé aussi sur une révolution technologique, la télévision. Martin Luther King a utilisé les images de la télévision pour montrer la violence de la répression d'État à l'encontre des manifestants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à l'origine du mouvement dans la mesure où ils permettent de montrer au plus grand nombre la réalité de ce qui est vécu par une minorité de la population. C'est-à-dire que sans les vidéos amateurs de violences policières, il n'y aurait pas d'affaire Floyd, il n'y aurait pas d'affaire Michael Brown, par exemple.
Etc. Alors, il y a le contexte américain et le contexte international. Pour ce qui concerne le contexte américain, on est dans la période de Covid aiguë aux États-Unis. On sait qu'il y a une surmortalité de la communauté afro-américaine pendant cette crise. On est aussi dans une période de pré-élection aux États-Unis, dans un contexte où le président Trump s'est beaucoup exprimé. Donc cette affaire-là, elle explose aussi à un moment particulier de l'histoire américaine.
Oui, vous avez raison de souligner cette coïncidence des événements, dans la mesure où le mouvement Black Lives Matter en 2013 est né à la suite de la profonde crise économique et financière donc de 2008, des subprimes, qui a touché de façon très dévastatrice les communautés de couleur aux États-Unis, en particulier la communauté noire américaine. Et aujourd'hui, vous avez raison de noter que la pandémie de coronavirus touche en particulier la communauté africaine-américaine. Et le renouveau du mouvement Black Lives Matter s'inscrit dans ce contexte, un contexte qui est caractérisé par le fait que la communauté noire américaine souffre en première ligne d'une situation générale, donc économique, sanitaire, etc., renforcée évidemment par l'approche d'une élection présidentielle extrêmement importante.
Il y a la manière dont on représente aussi les choses visuellement. Vous faites le choix. Peut-être quelques mots sur cette fresque, Idvan Kebadian, qui a été réalisée sur le mur du Jardin Extraordinaire dans le Bas-Chantenay de Nantes. Oui. On voit des visages masqués. Alors, clin d'œil à la fois à la pandémie de Covid, mais aussi aux masques à gaz nécessaires parfois pendant les manifestations de police. Un genou à terre aussi est posé devant un véhicule.
Oui.
Et puis, on est sur du noir et blanc avec quelques touches de rouge.
Oui. Alors l'idée de cette fresque, c'est l'artiste Le Chant du Cygne qui l'a eu. En fait, parce que chaque jour, c'est des artistes qui choisissent le sujet, parce que c'était vraiment le jour même. Donc lui, il m'a dit, on a changé le sujet au dernier moment, il m'a dit, il faut absolument qu'on fasse ça.
Parce qu'il y a des rendez-vous donnés à l'avance?
Là, on s'était donné rendez-vous, mais d'habitude, en fait, avec l'ASC, on démarre un événement Facebook avec un thème, et tous ceux qui veulent s'y joindre, s'y joignent.
Voilà. Donc, il n'y a pas de... On n'a pas, comme le graffiti, c'est très codifié. Sur Blackline, on a décidé de s'ouvrir et d'inviter vraiment toute personne qui veut y participer, des street artists, des couleurs, il n'y a pas de discrimination au sein de Blackline. Tout le monde peut y participer.
Avec plusieurs méthodes et plusieurs supports,
hein, exactement.
Que ce soit collage,
il y a des gens de 18 ans, d'autres de 60 ans.
De tous les âges.
Voilà, donc
l'aérosol, vous travaillez comment?
Moi, je travaille à l'aérosol, juste en noir. J'utilise pas de blanc non plus. En fait, c'est pour rappeler le tag, vraiment le tracé du tag.
Le noir et blanc, c'est devenu une sorte de marque de fabrique de Black Lines.
Oui, alors en fait, noir et blanc, c'est parce qu'on s'est dit, au milieu de toutes les fresques ultra colorées, surtout que le street art est très très coloré, très pop, on s'est dit, nous, vu qu'on veut montrer que c'est un sujet sérieux, on va essayer de se démarquer sans mettre trop de fioritures dans les couleurs. Ouais. Donc comme ça, on sait qu'au milieu de toutes ces fresques, quand c'est noir et blanc, ça parle de l'actualité, que c'est politique, c'est Black Lines. Et en fait, l'idée, c'était de faire comme un cortège de tête des artistes au service des luttes. Voilà. Donc on ouvre un thème et c'est ouvert à tout le monde, on l'a même fait en Espagne. Et tous les artistes qui viennent, on se connaît pas forcément, chacun est libre de son message. Mais comme on a une couleur commune, c'est un message commun.
On parlait des images qui circulent sur les réseaux sociaux et des images médiatiques. Mm-hmm. Les images de la mort de George Floyd, elles circulent depuis le début. Hein, elles ont circulé quasiment en temps réel. Vous, cette fresque, c'est une autre image que vous a posée
en temps
à cette mort-là.
En temps on l'a faite en temps réel. À ceci près, moi, j'ai
repris... Qui vient concurrencer l'image médiatique ou l'image...
En fait, souvent, on est désaligné par rapport à l'image médiatique. Mais pour le cas de George Floyd, c'est aligné parce que la Terre entière s'est alignée. Enfin, mais après, il y a eu des sujets où, comme par exemple,
surtout
Adama,
une autre réponse.
Où on était désalignés pendant une période.
Vous pouvez nous dire quelque chose de cette image, la décrire un peu plus?
Non, en tout cas, nous, c'était notre réponse, et surtout une autre réponse, en dehors des médias et de ce qui circule. On voulait vraiment... c'est pour ça qu'on laisse une liberté aux artistes. On donne un thème, on laisse vraiment libre cours aux gens qui participent à Blackline pour qu'ils puissent vraiment donner chacun leur vision des choses et de leur, de ce qu'ils perçoivent de cette...
Alors pour
cette tragédie,
pour l'image de George Floyd, enfin celle où le policier est en train de l'étouffer, moi j'ai choisi de pas mettre de visage à la victime, mais de utiliser cette image au moment où tout le monde sait que c'est lui. Donc le policier, lui, il a un visage, mais la victime, en fait, ça pourrait être partout dans le monde. Voilà. Donc c'était de dire que un policier qui est en train d'étouffer, qui a son genou sur le cou de quelqu'un, ce sera toujours de l'injustice, ce sera toujours criminel, ce sera toujours ça, quel que soit l'endroit où ça se passe. Là, ça fait écho à George Floyd parce qu'elle est à ce moment-là, tout le monde l'a vu. Mmh. Donc n'importe qui voit cette image pense à George Floyd, mais en même temps on pense à, je sais pas, même pendant mai 68, il me semble que c'était même le préfet qui avait dit, frapper un homme à terre c'est se frapper soi-même, en parlant des policiers. Donc là c'était pour montrer quand même un homme debout qui est en train de frapper un homme à terre. Ce sera que ce soit dans un tableau de la Renaissance avec les Romains qui sabotent, qui tabassent des gens au sol, c'est toujours une image d'injustice, c'est toujours une image de violence disproportionnée, et là en plus il y a l'insigne de police.
Nicolas Martin-Bretot, cette image des genoux à terre, elle est complexe puisque en réalité, elle peut dire une chose et complètement l'inverse. Elle est à la fois l'image militante que l'on connaît, qu'on a connue chez les sportifs notamment, hein, une image de résistance, hein, de contestation, et en même temps, elle est l'image aussi du geste policier, de la technique qui a tué.
Oui, c'est un geste qui a plusieurs significations, mais quand il est utilisé publiquement pour dénoncer les violences policières, il s'inspire du geste de Colin Kaepernick.
En 2016.
Voilà, le joueur de football américain qui, pendant l'hymne américain, qui est joué traditionnellement au début des matchs de football, s'était agenouillé, enfin plutôt avait posé un genou à terre, dans une posture de recueillement avec une grande solennité, et qui imitait en ça ce qu'avait déjà pu faire Martin Luther King et les militants du mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60. Où il s'agenouillait en pleine rue pour un moment de prière au milieu de la violence en fait de la société américaine. Et ce mouvement donc de protestation, genou à terre, a été décrit comme une insulte au drapeau, une insulte à la patrie américaine par le président Trump lui-même, avec des insultes publiques à l'encontre de Colin Kaepernick et des personnes qui ont avec lui fait ce geste de protestation.
Alors depuis, les exemples se sont multipliés, hein, en symbolique de genou à terre en signe de contestation contre les violences, et en même temps la technique policière a été elle-même discutée. Alors là aussi, dans le contexte américain, qu'est-ce qu'on peut dire des interpellations, Nicolas Martin-Bretot? Il y a tout un contexte aussi lié à la police telle qu'elle existe aux États-Unis, telle qu'elle est organisée.
La société américaine est une société très violente, d'abord socialement, et c'est la raison pour laquelle elle est aussi très violente physiquement. Les minorités raciales aux États-Unis, en particulier dans les quartiers populaires noirs, sont victimes d'une répression policière qui vise, entre guillemets, à les remettre à leur place, c'est-à-dire dans un ordre social qui est hiérarchisé. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de techniques sont aujourd'hui discutées, puisqu'elles sont létales. Le problème est que aux États-Unis, la justice américaine laisse, une capacité très large aux policiers d'estimer ou pas la nécessité de la violence, y compris mortelle, dans un cas de confrontation avec un suspect.
Elle pose aussi la question, évidemment, des armes.
Absolument.
Elle pose la question du contexte, du quartier dans lequel se fait l'interpellation, tout ce contexte-là. Vous aviez parlé de la naissance du mouvement Black Lives Matter. Peut-être on va en rappeler la genèse avec Alicia Garza.
Oui, ce mouvement est né à la suite de l'acquittement du meurtrier du jeune Afro-Américain Trayvon Martin en 2013, et cet acquittement a suscité donc un émoi extraordinaire aux États-Unis, poussant même Barack Obama à sortir de sa réserve traditionnelle. Et c'est à ce moment-là, donc en 2013, que ce slogan a d'abord été diffusé sur les réseaux sociaux, Black Lives Matter.
Parce qu'elle a écrit un billet, hein, une sorte de billet d'humeur.
Voilà, sur Facebook et Twitter. Donc, les vies noires comptent, c'est-à-dire, au sens propre, les vies noires ont de l'importance. Ça paraît une évidence, mais dans le contexte américain et pour certaines populations marginalisées et stigmatisées, ce slogan est aussi révolutionnaire parce qu'il met à mal, en fait, un ordre social plus général.
Eden Gabadian, il y a souvent avec les fresques des phrases qui accompagnent, alors on les voit sur beaucoup de murs, le « I can't breathe » a été beaucoup réutilisé. Oui. Est-ce que vous utilisez justement des phrases tirées de l'actualité ?
Alors moi personnellement, j'en utilise pas. Le « Laissez-nous respirer », c'est l'artiste Le Chant du Cygne qui a décidé de la mettre. Et donc lui, il me semble qu'il a voulu faire un parallèle entre toutes les manifestations réprimées dans le gaz lacrymogène et cette interpellation. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens masqués, que ce soit le Covid, que ce soit les manifestants ou que ce soit les gens étouffés par les clés policières.
Alors on voit justement que cette actualité aussi artistique, elle circule par les réseaux sociaux. Vous oui. agissez à la fois dans l'espace public, directement sur les murs. Vous savez que ces murs risquent d'être nettoyés.
Oui.
Et vous immortalisez vos photos et vous les faites circuler.
Alors en général, c'est les journalistes qui les font circuler. Nous, notre Facebook Blackline, on a des followers, mais on n'est pas très doué dans ce côté-là. Mmh. Mais par contre, les images circulent d'elles-mêmes par des milliers, des milliers, des milliers de partages.
Mmh. Je vous propose d'écouter un autre artiste palestinien, Takis Patine. On va lui dire quelques mots. Il est à Bethléem et lui aussi, c'est un artiste militant. Il a décidé de représenter George Floyd. Bonjour Takis Patine.
Hello, how are you?
Ça va bien, merci. Vous êtes donc un artiste palestinien, vous venez de Bethléem. Vous nous parlez depuis Bethléem aujourd'hui. Vous avez décidé de représenter à deux reprises la figure de George Floyd sur le mur qui entoure Bethléem. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette grande fresque, de ces deux grandes fresques que vous avez décidé de peindre, Takis Patine?
Yes, I painted on the wall of the apartheid separating the
Donc,
land.
J'ai fait une fresque sur le mur qui sépare Bethléem d'Israël.
Which is divided between two parts of the West Bank
en fait,
and Palestine 48.
C'est un mur qui était un mur de séparation par rapport à la Cisjordanie.
I did that because I feel that George Floyd is
J'ai voulu exprimer cela parce que George Floyd, il fait partie de nous, il fait partie de l'espèce humaine.
Because we have a knowledge what happened with George Floyd here in Palestine many times.
En Palestine, on est bien placé pour savoir ce qu'a pu subir George Floyd.
The Palestinian people here, and the same.
Le peuple palestinien, en effet, est opprimé.
The same way they killed George Floyd, it's happening here in Palestine.
Et au même titre que George Floyd a été tué par les policiers américains, eh bien nous, en Palestine, nous vivons la même chose.
Alors vous faites ici référence, Takis Patine, à un événement particulier, hein, celui de la mort de Yad Al-Halak, un jeune Palestinien atteint d'autisme qui a été tué dans des circonstances non élucidées par les forces israéliennes.
When I create George Floyd, when I send my feelings to
quand j'ai exprimé
to George Floyd,
mes sentiments face à ce qu'a subi George Floyd,
next 2 days, Iyad Al-Halak died.
Eh bien, deux jours après, Iyad Al-Halak a été tué.
He is a sick.
Iyad Al-Halak souffrait d'autisme, vous l'avez dit. Il était dans une institution spécialisée et pourtant, ils l'ont tué sans aucune forme de pitié.
And when he take a first shot, he just smiling. Yet he was smiling, and the soldier come and he complete him.
Il était tout sourire. Il a pris une première balle dans le cœur, et malgré ce sourire, les policiers l'ont abattu d'une seconde balle.
And actually, Yad Halak is a white man.
Et Yad Al-Halak, c'est peut-être le George Floyd palestinien, mais il n'a pas la peau noire. Il est blanc.
Les policiers diront plus tard qu'ils pensaient qu'il était armé. Ça a été l'argument donné par les forces de l'ordre.
No, we just say they just say something like that, but
oui, c'est un prétexte.
Il y a eu un partage de ce hashtag Palestinian Lives Matter sur le modèle de ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces parallèles que vous faites entre les deux, puisque votre travail concerne aussi la question de l'impunité, de la violence et de l'absence de justice?
The racism cannot see who is the black.
He en réalité, le racisme est aveugle. Ce n'est pas la couleur de la peau qui importe pour le raciste.
The racism is one, and it's around the world by different ways, and
le racisme revêt différentes formes. Et George Floyd et Iyad Alalak sont tous deux victimes de racisme, de formes différentes, mais de racisme.
En tant qu'artiste engagé, vous vivez aussi avec les supports de votre temps. Vous êtes un jeune artiste né en 1988. Votre fresque a fait l'objet de photographies sur ce mur et il a été évidemment partagé. Il y a eu une viralité importante autour de cette œuvre. Est-ce que l'engagement de l'artiste vient aussi de cette multiplicité de supports, du fait de à la fois d'avoir un lieu symbolique dans lequel le message s'inscrit, mais aussi toute une vie virtuelle qu'il va le faire vivre dans le monde entier?
I think the point is around the racism, because all the people over the world.
Le message, c'est la dénonciation du racisme.
They have a problem with this
partout dans le monde, le racisme pose problème.
And it was very fast when I bring my color and paints to put it on the separation wall.
Au début, j'ai voulu mettre de la peinture, des couleurs et mais aussi un message bien sûr sur ce mur de séparation à Bethléem.
The wall was built. It's the same racism. George Floyd was killed and many people around the world.
Et la construction même de ce mur est le résultat d'un racisme qui est le même que celui qui a tué George Floyd.
And all the people standing with me, with my message and with my.
Vous parlez de support, de soutien. Oui, c'est vrai que j'ai bénéficié d'un grand soutien. Il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour dire à quel point ils soutenaient mon message.
Because I make mixed between the George Floyd and Iyad Alhalak and the racism of the separation wall.
En effet, mon message porte un message de dénonciation du racisme contre George Floyd, du racisme contre Iyad Alhalak et puis aussi le racisme que véhicule l'existence même de ce mur.
And I use my justice to do this. I use my justice in this point.
Et par conséquent, je crois que ce que je fais, c'est une œuvre de justice.
Il y a une dimension universelle qui était importante dans ce travail de street art, puisque partout dans le monde, des fresques, des pancartes sont nées au Royaume-Uni, en Syrie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et bien sûr aux États-Unis. Le fait de faire cette fresque-là à Bethléem, sur ce mur, est-ce que c'était justement apporter une autre dimension aussi universelle à ce soutien apporté à George Floyd et plus largement à toutes les victimes de violence et d'injustice dans le monde? Takis Patin.
I treat with colonialism. Because
je dénonce le colonialisme.
Yeah, there are many countries where racism is widespread in all its forms and mind. And biggest reason for
il y a des pays où le racisme est encore plus présent qu'ailleurs.
In some countries, is the colonialism that some countries apply to the people.
Et il y a des pays où le colonialisme a encore de beaux jours devant lui. En tout cas, il est très prégnant.
And we must remove this colonialism from the regions and
ce colonialisme, il faut le combattre, il faut s'en défaire.
Then we will find radical solution to take off that seed. sown in some human hosts that produce.
Il faut trouver des solutions radicales. Il faut puiser ces solutions dans le cœur de l'homme.
Yeah, to take the seed sown in some human hearts that produce repressive racist acts of all kinds.
C'est dans le cœur de l'homme que se trouve la solution, la graine qu'il faut semer pour qu'elle se répande partout dans le monde pour lutter contre le racisme, quelle qu'en soit la forme.
Palestine, in Bethlehem, exactly in Bethlehem, the general controlling over the world because it's the holy land, and I don't know, maybe they're looking for Bethlehem.
Alors Bethlehem, la terre sainte s'exprime vers le monde. Je crois que le symbole est clair, il est très fort.
Merci beaucoup Takis Patin de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci.
Thank you so much. It's my pleasure to be with you. Alive and,
merci, c'était un plaisir de pouvoir vous parler, d'être en vie et d'exprimer ma voix sur France Culture.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Nicolas Martin-Breteau, on entend derrière les propos de Takis Patin, alors bien sûr son militantisme, à la fois une dimension très universelle de la lutte contre le racisme, mais aussi une déclinaison de plusieurs cas différents, dans des contextes différents. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce hashtag Palestinian Lives Matter et de toutes les déclinaisons qu'on a pu trouver du nouveau souffle qu'a donné l'affaire George Floyd à d'autres causes?
Vous avez raison de noter la portée universelle des propos de Takis Patin, puisqu'il se réapproprie une tragédie qui s'est passée à des milliers de kilomètres de Palestine. Et ce qui est intéressant, il me semble, dans ses propos, c'est une dénonciation des mécanismes similaires, en fait, du racisme dans le monde, quelles que soient les sociétés. Je dis bien similaires et non pas identiques. Ces mécanismes sont donc comparables, ils sont pas exactement les mêmes, mais ils sont similaires, et c'est la raison pour laquelle il me semble que la comparaison entre, par exemple, la situation aux États-Unis, la situation en Palestine, ou la situation aux États-Unis, la situation en France, peuvent être comparées, toutes choses égales par ailleurs.
Alors, il y a le symbole du lieu sur lequel peut-être vous pourriez nous dire un mot de ceci, Edvan Kebadian, le lieu symbolique que l'on choisit pour faire sa fresque ici, c'est le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, les lieux symboliques, il y a ce que l'on représente et où on le représente?
Mais où on le représente, ça c'est sûr que c'est presque le sujet principal. Enfin, on a vu par exemple qu'au moment des émeutes en Amérique, les gens cassaient les statues. Donc c'est des endroits où on avait l'habitude de dire qu'il y a une vérité historique et après un événement, on la reconteste. Et ben les lieux, c'est exactement la même chose. Par exemple, il suffit de prendre la place de la République au moment des attentats, ou la place de la République au moment de Nuit debout, ou la place de la République il y a un mois quand les policiers font une manifestation sauvage qu'a presque l'air d'une démonstration de puissance. C'est le même lieu qu'est la République. Pourtant, il a à chaque fois trois significations différentes, suivant qui l'habite et ce qu'on y exprime. Du coup, nous, on a voulu reprendre cette idée-là. C'est-à-dire, par exemple, pendant le 14 juillet, on est allé peindre rue de la Fontaine au Roi. Ben, on a fait tout un travail sur l'image du 14 juillet, mais on voulait aussi que ce soit une rue qui ait un petit rapport avec, avec le sujet qu'on va traiter.
Alors, qu'est-ce que justement vous parliez de cette déclinaison à des milliers de kilomètres. Vous, en tant qu'historien spécialiste de l'histoire américaine, il y a des différences notables et malgré tout, il y a un message commun lié à une forme d'oppression et d'oppression physique. La question de la mort, du meurtre.
Oui, bah,
de la violence étatique.
Takis Patin le dit bien à la toute fin de l'interview. Il remercie France Culture de l'interview et d'être en vie. Je pense qu'il faut prendre cette déclaration au sérieux, c'est-à-dire qu'il pèse sur sa propre vie une menace et il en est conscient. Je pense qu'il dénonce également le racisme comme structure de domination, comme structure d'oppression, vous avez raison de le dire, qui se décline différemment selon les sociétés, c'est-à-dire selon les lieux où le racisme a lieu. Mais puisque ces structures de domination sont similaires, elles peuvent être comparées. Et c'est la raison pour laquelle un drame comme celui de la mort de George Floyd peut parler aux Palestiniens aujourd'hui et à d'autres populations dans le monde également.
Pour revenir dans le contexte américain, on va écouter Toni Morrison qui parle justement du racisme aux États-Unis. C'était dans Boomerang sur France Inter le 8 novembre 2016.
I think it actually means make America quite a girl.
Ce qu'il faut entendre dans cette phrase, ce n'est pas rendre sa grandeur, mais rendre sa blancheur à l'Amérique. C'est à l'évidence un slogan raciste qui mobilise et enflamme beaucoup d'Américains, surtout après 8 années pendant lesquelles le président américain était noir, qu'on peut considérer comme le dirigeant le plus puissant du monde. Ça n'a pas plu à certains.
Nicolas Martin Breteau, l'écrivaine Toni Morrison, hein, qui dit bien qu'il s'agit bien d'une question raciale et cachée, sous-tendue par l'intervention du président Trump.
Oui, elle parle du slogan qui a fait la campagne de Donald Trump en 2016, « Make America Great Again ». Elle dit que ça ne veut pas dire rendre l'Amérique grande à nouveau, mais la rendre blanche à nouveau. Elle décrypte donc ce slogan de campagne en montrant que Donald Trump porte en réalité un discours de suprématie blanc qui vient en réalité critiquer les 8 années qu'a passé Barack Obama au pouvoir, c'est-à-dire les 8 années qu'a passé au pouvoir dans la Maison Blanche le premier président noir. Et de ce point de vue, elle fait de Donald Trump un président américain dont l'accès à la Maison Blanche est essentiellement fondé sur une contre-révolution raciale. À la révolution raciale qu'a été les 2 élections de Barack Obama, l'élection de Donald Trump a été une contre-révolution raciale, cherchant à montrer que l'Amérique, en réalité, reste un pays blanc pour les blancs.
Alors qu'est-ce que l'affaire Floyd, Nicolas Martin Breteau, change à cette conception-là ? On a vu que la communauté noire n'était pas la seule à se mobiliser dans cette affaire, qu'à la fois blancs et noirs se sentaient concernés, les artistes du monde entier, Banksy aussi est intervenu sur les murs, notamment en disant que ce n'était pas une affaire de noirs, mais que c'était l'affaire de tous et la sienne en premier.
Oui, vous avez raison de le noter. Ce qui est très frappant dans les mobilisations actuelles, c'est leur dimension interraciale. Quand on voit les images aux États-Unis et dans le monde des manifestants antiracistes, on voit quoi ? Eh bien, on voit des personnes qui sont noires, certes, mais énormément de personnes qui ne le sont pas et qui se sentent concernées par des réalités qu'elles ne vivent pas au quotidien. Moi, personnellement, je ne me fais pas contrôler en permanence dans la rue. D'ailleurs, je ne me suis jamais fait contrôler dans la rue. Mais pourtant, je pense que je suis concerné par ces questions. Et c'est ce qui change, me semble-t-il, les cadres du débat aujourd'hui sur le racisme, c'est-à-dire cette coalition interraciale qui pèse sur le débat public.
Alors pour ce qui concerne Black Lines, comment est-ce que vous choisissez vos sujets d'actualité ? Est-ce qu'il y a une ligne ? Est-ce que vous refusez, je crois, les étiquettes politiques ? Mais il y a un engagement, même un militantisme actif, celui d'aller s'exprimer sur les murs. Est-ce qu'il y a une ligne vis-à-vis justement de ces questions en particulier, le racisme, l'oppression?
Déjà, le graffiti à la base, déjà, ça vient d'une culture qui s'appelle le hip-hop. Mais déjà, ses racines déjà sont, comment dire, contestataires. Donc, c'est une suite logique, en fait. Donc, non, on ne choisit pas les thèmes à l'avance. Ça se fait naturellement. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on voit dans les médias, c'est ce qui nous parasite toute la journée et qu'à un moment, ça vient comme une évidence.
Mais il y a un tri fait par rapport à l'actualité. Vous ne vous exprimez pas sur tout, toutes les déclarations politiques,
pas forcément.
Tous les buzz.
Mais pas tous les buzz, mais il y a des choses qui nous, comment dire, qu'on nous matraque toute la journée. Donc, pour nous, c'est une évidence. Par exemple, pour les gilets jaunes, on a eu cette chose qui nous entourait. Donc, on s'est dit, on va traiter ce sujet.
On a lancé un thème qui s'appelait l'hiver jaune.
Voilà.
Et d'ailleurs, qui a été après repris même par les médias, même le titre de la fresque. Et là, la fresque faisait 1/2 kilomètre quand même. Enfin, donc, il y a eu énormément de gens qui sont venus. Et à ce moment-là, on avait même l'impression que l'acte de peindre, c'est pas tellement la fresque à la fin, mais l'acte de peindre était une manifestation de soi, une manifestation de son langage, une manifestation d'un propos.
Et ce jour-là, ce qui m'avait marqué, c'est que quand on a fait cette fresque, c'est que on est en train de peindre. Il y a une dame qui est sortie, quoi, dans la rue. Et qui était énervé, qui était derrière moi, et qui m'a dit « Pourquoi vous faites ça ? On voit ça toute la journée à la télé, et en plus vous nous mettez ça comme si la réalité lui éclatait au visage, comme si à force de lui matraquer à la télé, ça ne donnait plus rien, mais que là, sur le mur, ça prenait forme. »
Et ça prend même une forme symbolique, mais aussi fantomatique. Vous avez représenté beaucoup de personnes qui ont été tuées. Ça, c'est une des lignes, peut-être, de Black Lines. Alors, il y a eu l'hommage à Steve Maya Canisso sur les murs de Nantes, aussi. Il y a eu Adama Traoré.
Oui.
George Floyd, aujourd'hui.
Il y a aussi l'écologie, aussi. Non, on traite vraiment des sujets...
Mais sur cette question-là, peut-être.
Alors, comme on est sensible à l'injustice, Enfin, nous, un des propos, c'est de se mettre du côté du faible. Enfin, je crois que c'est aussi la place des artistes. Il y a eu des artistes de pouvoir à chaque époque. Aujourd'hui, les artistes de pouvoir, ils sont peut-être dans la publicité ou dans un autre domaine. Donc, on s'est dit, c'est là où ça rejoint ce que disait Lask. Ça vient du graffiti. Le graffiti, ça a été contestataire. Donc, on va donner la parole à ceux qui l'ont pas. En gros, c'est ça l'idée. Donc, donner la parole à ceux qui l'ont pas, c'est aussi donner la parole aux victimes. Enfin, d'autant plus que par rapport à l'histoire d'Adama, non seulement il a été calomnié, persécuté, sa parole a été détruite. Enfin, il y a eu quand même tout un travail pour détruire la parole de la victime. Et il y a tout un travail d'un autre côté. Par exemple, je pense à une citation de Macron où il disait « on va pas déboulonner les statues » en parlant des statues coloniales. Donc, d'un côté, on veut effacer la fresque en hommage à Adama, le portrait d'Adama, et d'un autre côté, on veut pas enlever. Donc il y a une sorte de valorisation des bourreaux. Là, ça peut rejoindre même la question palestinienne. Et de l'autre côté, les victimes, on les a déjà tuées une fois, on les retue une deuxième fois, on tue leur mémoire et après on les salit.
On entend là quand même la question de l'engagement qui est le vôtre. Alors est-ce qu'il y a une ligne dans ce que vous choisissez de représenter?
Alors, en tout cas, je sais que quand on a commencé Black Line, on l'a commencé dans les banlieues. Moi, je suis de banlieue. On l'a commencé là-bas. Je sais pas si ça s'est fait naturellement, mais on l'a commencé là-bas.
Banlieue parisienne de 93.
Ouais, du 93. On l'a commencé là-bas. Et ça a pris forme là-bas. Et je trouve que ça a mis un souffle. On peut s'exprimer autrement. Le fait de mettre ça sur le mur, ça nous donne aussi
Il y a une réappropriation, quand même, de l'espace.
De l'espace.
C'est pour ça qu'elles sont censurées.
Voilà.
Parce que on est quand même beaucoup agrafé sur ces murs-là. Le mur de République, tout le monde a graffé pendant 10 ans. Il y a des gens qui ont fait des images violentes. Il n'y a jamais eu le mur qui a été repeint. Et ensuite, toutes les fresques qu'on faisait tous les deux, voilà, ils repeignaient que nos parties. À côté, ils le laissaient.
Et c'est là où on a vu que le graffiti.
Donc là, vous parlez de censure.
Oui, mais c'est là où on a vu que quand on parle de sujets clivants, de sujets de société, tout de suite, on a compris qu'on n'était pas libre dans l'espace public. On ne pouvait pas dire n'importe quoi, on ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait.
Et surtout l'image de la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, on s'est fait censurer une fresque pour la Syrie. C'était pendant la guerre de Syrie. Donc on avait fait une fresque. Notre fresque s'est fait effacer. Et par contre, il y avait la une de Libération qui placardait partout les enfants morts. Donc une image beaucoup plus violente. Pourtant, elle était dans l'espace public. Donc à partir de là, on s'est dit, ça veut dire quoi? L'image de la réalité, elle appartient qu'à certaines personnes.
Voilà.
Et nous, on n'a pas le droit de parler de l'image de la réalité.
De dire ce qu'on ressent face à cette actualité.
Comme s'il y avait une appropriation de la réalité.
Voilà.
Et c'est ça qu'on a voulu. Donc,
ou l'idée d'une surenchère. Ou l'idée d'une surenchère.
D'une surenchère, c'est-à-dire.
Des médias, c'est-à-dire.
Oui, bien sûr. Oui. Mais aussi, c'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de reprendre une image, de l'interpréter, de dire voilà, ce boxeur, il a. En fait, quand il tape, il s'est fait taper. Ils ont le droit de mettre la bande-son, en fait, des images. Mais nous, quand on l'utilise dans la rue, on n'a plus le droit de l'utiliser. Elle est forcément contre, elle est forcément mauvaise, et ensuite elle est repeinte. Donc nous, on s'est dit au début, on est deux à se faire repeindre en permanence. On va inviter d'autres gens pour voir.
Pour voir ce qui.
Et il se trouve que, par exemple, l'Hiver Jaune, on était 50. On a été 50 à se faire censurer. Aucun des artistes qui ont participé à l'Hiver Jaune s'était fait censurer avant. Il suffisait qu'ils viennent dans ce média, qui est un média sauvage. En fait, qui est un média indompté. Voilà, c'était ça l'idée.
Alors, Nicolas Martin-Breton, on voit que cette idée de la représentation, évidemment, c'est les corps qu'on représente. En tout cas, dans ces fresques-là, c'est souvent les corps qu'on représente. Et cette question du corps, dans la question du racisme, c'est une question que vous avez particulièrement étudiée. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots de l'évolution et de l'enjeu que représente le corps dans ces questions de racisme.
Eh bien, dans le cas du racisme dirigé contre les personnes noires ou considérées comme noires, le corps est un enjeu essentiel puisque ces personnes sont considérées, présentées, stigmatisées comme noires pour légitimer leur oppression sociale.
Donc ça, c'est ce que vous appelez le corps altérisé, hein, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on marque une différence dès le départ de laquelle découlerait un certain nombre de représentations.
Oui, qui légitimerait au final, leur situation sociale et donc leur oppression sociale.
Alors comme le fait d'être potentiellement armé, par exemple, quand on est interpellé par la police ?
Il y a dans l'imaginaire américain notamment, tout un tas de clichés, de stéréotypes qui s'attachent aux personnes noires de banlieue populaire, considérées comme menaçantes, dangereuses, armées, délinquantes, voire criminelles, et qui légitiment en retour l'usage de la force, parfois de la force mortelle, à leur encontre.
Alors l'enjeu du corps, il a existé avec aussi un contre-enjeu pour la communauté afro-américaine qui a été parfois d'en passer par le sport, par d'autres disciplines qui permettaient de relégitimer ce corps-là jugé inférieur.
Oui, l'histoire africaine-américaine montre que, eh bien, les Noirs aux États-Unis, mais ça peut être vrai ailleurs qu'aux États-Unis, ont utilisé leur corps, la présentation publique de leur corps, comme un élément central de leur lutte de libération, notamment pour prouver la dignité de ces corps et leur légitimité à se voir accorder des droits égaux. C'est un enjeu fondamental, donc qui passe par exemple par un certain nombre d'activités sociales comme le sport, mais on peut penser aussi à la cosmétique. Les femmes noires aux États-Unis attachent une importance toute particulière à la cosmétique, c'est-à-dire le soin de la peau, le soin des cheveux, etc. Et ce n'est pas du tout quelque chose de superficiel. C'est un acte politique de s'occuper de soi pour se présenter au mieux face à la société, c'est-à-dire en public, dans une société précisément qui délégitime la dignité de votre corps.
Alors la question du sport, elle a permis aussi d'être une sorte de lutte contre l'invisibilité ?
Oui, le sport permet de montrer que les corps noirs sont aussi puissants, aussi agiles, aussi intelligents que les corps blancs, puisqu'il faut se rappeler qu'il y a un siècle, on considérait que les personnes noires étaient inaptes au sport. Notamment, ça paraît incroyable aujourd'hui tellement le cliché s'est inversé, mais les personnes noires à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle étaient considérées comme inaptes, notamment, ça paraît incroyable, aux courses de longue distance. Ouais, typiquement, le marathon, c'était pas une discipline pour les personnes noires parce qu'elles manquaient de courage, de discipline, de volonté et avaient des capacités pulmonaires, dit-on, inférieures à celles des blancs. Vous voyez que ce stéréotype s'est retourné parce que, justement, un certain nombre de personnes noires ont investi massivement le sport comme voie privilégiée pour faire advenir la démocratie et l'égalité.
On va écouter YN, B met des bombes.
Du ciel tombé, près des décombres comptés, manquer la cible, trompé, tant pis. Radar vise, appuie, bémé des bombes et les corps s'empilent. Bémé des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile, ton territoire est à portée main. Pas d'angle mort, parle à tes morts. Bémé des bombes et demain devient loin. Bémé des bombes et demain devient. Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. 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 Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. 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 Pémer des bombes, ramper. Cadeau du ciel, tomber. Près des décombres, compter. Marquer la cible, tromper, tant pis. Radar, vise, appuie. Pémer des bombes et les corps s'empilent. Pémer des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile. Ton territoire est à portée main. Pas d'angle mort, parle à tes morts. Pémer des bombes et demain devient loin. Pémer des bombes et demain devient. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent, hein. Voici le mot d'ordre. 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 Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. 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 Oh. Pémé des bombes, ramper, cadeau du ciel, tomber, près des décombres, compter, manquer la cible, tromper, tant pis. Radar, vise, appuie, pémé des bombes et les corps s'empilent. Pémé des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile, ton territoire est à portée main. Pas d'angle mort, parle à tes morts. Pémé des bombes et demain devient loin. Pémé des bombes et demain devient. Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. 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 Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent, hein. Voici le mot d'ordre. 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 Bon, pémé des bombes, ramper. Cadeau du ciel, tomber. Près des décombres, compter. Manquer la cible, tromper, tant pis. Radar, vise, appuie. Pémé des bombes et les corps s'empilent. Pémé des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile. Ton territoire est à portée main. Pas d'angle mort, parle à tes morts. Pémé des bombes et demain devient loin. Pémé des bombes et demain devient. Voilà que les choses explosent. Voilà que les choses explosent. Voilà que les choses explosent. Avec le mot d'ordre. Avec le mot d'ordre. Avec le mot d'ordre. Avec le mot d'ordre.
Il est presque 13h30 sur France Culture et c'était YN, B met des bombes, extrait de l'EP Chant de Force. YN fait partie de la sélection des Inouïs du printemps de Bourges 2020 et sera à l'affiche du festival Crossroads, festival européen de découverte musicale dont c'est la 5e édition du 8 au 11 septembre en streaming. On continue, on écoute un son extrait de Brassai qu'on entendait s'exprimer, c'était pour Chambre Noire en 1964.
Brassai, on peut dire que vous avez été le photographe des murs de Paris. Comment vous êtes-vous intéressé tellement à tous ces graffitis qui vous ont rendu célèbre en plus de bien d'autres activités d'ailleurs?
Eh bien, je me suis beaucoup baladé à Paris, j'ai souvent regardé les murs et je trouvais tout ce qui se passe sur le mur est très intéressant, n'est-ce pas? Il y a des craquelures du mur même et il y a des graffitis que des personnes dessinent là clandestinement. Et j'ai commencé à photographier ces choses déjà en 1930-32. J'avais des petits carnets sur lesquels j'ai noté des adresses. Je pouvais les suivre de Révolution parce que c'est une œuvre collective. Il y a beaucoup d'autres gens qui dessinent et continuent un graffiti.
Mais on a dit que Picasso suivait avec beaucoup d'intérêt.
Et Picasso aime beaucoup lui-même. Il en a fait des graffitis à Montmartre, beaucoup. Et il m'a raconté, il avait dans une banque un jour, il attendait, il a fait un graffiti, n'est-ce pas, sur un mur. Et après, le directeur a appris que c'était un graffiti de Picasso, alors on a découpé le mur. Et il se trouve en ce moment dans son appartement, n'est-ce pas, avec tout le bout de mur.
Edwin Kebadi, on voit que l'affaire n'est pas nouvelle. Hein. Ben, Brassai prenait en photo les murs et s'y intéressait en 1964. Aujourd'hui, vous parlez des murs au pluriel, alors les murs de l'espace public, mais aussi les murs virtuels sur lesquels les choses s'affichent. Alors peut-être que ces œuvres-là, elles ont une double vie.
Oui,
grâce à ce que dit Brassai, l'intérêt que portent les artistes aussi est-il le même? Les artistes, pas simplement de l'art urbain.
C'est sûr.
Brassai s'est intéressé en tant que photographe à l'art de rue.
Il a pris même dans les tags comme ceux qui étaient faits par les Romains, qui est gravé juste avec un bout de métal sur un banc, sur un mur.
Les tags romains.
Ouais, voilà. Si, il y avait des à Rome, on a retrouvé des tags de gladiateurs qui ont été comme ça, gravés comme ce qui peut se faire en garde à vue, avec juste un bout d'ongle.
C'est aussi ce rapport à la légalité-illégalité qui vous intéresse dans l'espace que représente le mur de rue.
Ouais, alors nous, comme on vient du graffiti, ça fait depuis que j'ai 13 ans et là, ce qu'aussi, on a toujours travaillé à la base clandestinement avec un pseudo. Donc le but, c'était de ne pas se faire prendre, d'être visible. Et par contre, dans Blackline, on s'est dit qu'on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va écrire avec un nom, en tout cas qu'on puisse porter notre message et pas être obligé de se cacher, pas avoir besoin d'une cagoule. Et on va utiliser des murs légaux, donc des murs avec une autorisation, pour pouvoir revendiquer le message et aussi pour amener en fait les autorités elles-mêmes à faire l'erreur. C'est-à-dire que nous, on montre une image de la société et eux, à un moment donné, si elle est insupportable, ils l'effacent. Mais du coup, l'erreur, elle vient d'eux. Le débordement vient d'eux. Nous, on a joué dans les règles. Comme les artistes, plus on va dans des... moins il y a de droits, plus les artistes trouvent des subtilités pour réussir quand même à parler malgré tout.
C'était important aussi que le Blackline soit accessible à tout le monde. Donc le fait que ça soit légal, eh ben, tout le monde pouvait y participer. Donc voilà, on voulait être ouvert en fait.
Et finalement, c'est souvent le syndicat de police qui demande la censure. Donc pourtant, ils sont normalement dans les règles. Donc nous, en jouant dans les règles, finalement, c'est, pour eux, c'est plus compliqué que si on jouait hors des règles.
Voilà. Alors, le syndicat de police demande la censure. Nicolas Martin-Breton, on a vu que, justement, les représentations de Floyd, notamment à Stains, ont été aussi très polémiques en France, avec les slogans « I can't breathe », avec les slogans liés aux violences policières. Alors, une affaire qui, à la fois, s'exporte des États-Unis mais devient polémique en France. Bien sûr, il y a aussi l'affaire Traoré qui est derrière cette histoire, mais il y a aussi cette image de la police qui n'est pas du tout la même en France et aux États-Unis, en tout cas pas jugée de la même manière.
Aux États-Unis, la police est une institution extrêmement importante, comme je l'avais dit, parce que la société américaine est elle-même extrêmement violente. C'est une société violente d'abord socialement, et donc elle l'est physiquement également. Et la question du maintien de l'ordre dans les quartiers populaires, en particulier de communautés de couleur, dans les grandes villes américaines, revêt un enjeu tout particulier dans la mesure où les personnes qui y vivent, ou plutôt les personnes qui y sont confinées, si on peut utiliser ce terme, qui y sont reléguées, eh bien, ne participent pas pleinement à la démocratie capitaliste américaine. Ils sont relégués aux marges de l'emploi, participent peu ou pas à la vie politique du pays et sont des territoires, entre guillemets, à pacifier. Et cette réalité est si prégnante que la police devient, dans certains cas, une force d'occupation de territoires jugés ennemis, notamment parce que les personnes qui travaillent dans la police résident très rarement dans les quartiers dans lesquels ils patrouillent, ce qui augmente les risques de violence par méconnaissance des lieux, en fait, simplement, dans lesquels ces personnes travaillent.
Non, pas uniquement. Il y a aussi certains États dans lesquels on a parlé d'une violence structurelle qui serait liée à cette police en particulier. Les polices, elles ne dépendent pas de l'État aux États-Unis, en tout cas pas de l'État fédéral.
Alors, la police en général aux États-Unis, effectivement, ne dépend pas directement de l'État fédéral, c'est-à-dire de Washington, mais est une institution décentralisée qui est gouvernée à l'échelle locale, notamment à l'échelle du comté ou voire de la municipalité. Donc, par exemple, les chefs de la police à l'échelle municipale sont nommés par le maire de la ville et donc relèvent de son autorité. Et donc, pour changer ou transformer cette institution, il faut des actions locales. Il faut en passer par les élections locales, notamment. Donc, un travail de militantisme au niveau le plus local. Quand on a reproché, par exemple, à Barack Obama de ne pas en faire assez dans la réforme du système judiciaire et policier américain, eh bien, en règle générale, on se trompait aussi sur les pouvoirs qu'a l'homme, entre guillemets, le plus puissant du monde.
Alors, on parlait de ce qui se passait aussi en France. Christophe Castaner intervenait le 23 juin dernier à l'Assemblée nationale et il était choqué par la fresque de Stains. On va l'écouter.
Madame la députée, vous évoquez cette fresque à Stains. Cette fresque, elle me choque. Elle me choque parce que, et je partage l'indignation de celles et ceux qui trouvent qu'il est totalement scandaleux de faire un amalgame et d'inaugurer en écharpe Stains bleu, blanc, rouge, une fresque qui vise à faire des amalgames et qui vise à faire en sorte de montrer que la police serait par nature violente. Non, madame la députée. Il n'y a pas en République de violence illégitime portée par nos forces de sécurité intérieure. Il y a chaque jour des femmes, des hommes qui se mobilisent et qui font en sorte de protéger la République. Et ils sont légitimes à utiliser la force. Ne faites pas cet amalgame.
Diane Kebadian, la question de l'amalgame soulevée par Christophe Castaner.
L'amalgame, c'est eux. C'est toute leur fake news d'État. Ils ont passé tout un quinquennat à faire des amalgames sur tout. Et dès qu'on essaye, nous, de dire quelque chose, ils disent qu'on fait un amalgame. Enfin, ce que je veux dire, on parlait par exemple de la position des corps, l'homme qui est à genoux sur... le policier qui est à genoux sur la tête d'une victime, c'est ce qui s'est passé tous les jours pendant les Gilets jaunes. Et même ça, avant, c'était la gestion coloniale des quartiers, donc on pense à Mantes-la-Jolie. Ces étudiants, ces lycéens qui se sont fait mettre à genoux les mains sur la tête. Voilà un peuple qui se tient sage. Enfin, tout ça, c'est quand même... ça existe. Donc ces pratiques-là, elles ont toujours existé. Toujours existé en banlieue. Maintenant, elles ont existé pendant toute la période des Gilets jaunes. C'était quand même la période des mutilés de France. Et eux, ils n'ont cessé de dire que la réalité n'existe pas.
Comme les contrôles aux faciès, les contrôles intempestifs, tout ce qui se passe en banlieue, qui a tous les jours
vos positions en tant qu'artiste, mais il y a aussi les positions inverses qui ont été adoptées. On a vu que justement il y avait eu des demandes du syndicat de police Alliance à ce que l'idée de violence policière soit retirée du mur, puis que les murs ont été finalement
Par rapport à ce syndicat Alliance, ils ont quand même un humour des fois qui est assez étrange. Par exemple, ils ont fait une manifestation, ils se cachent l'œil après avoir éborgné énormément de la population, donc ils font des blagues comme ça. Donc ils ont une position, en fait. Le problème, c'est pas la position de la police, c'est pourquoi, quand on a autant de pouvoir, on se permet des blagues comme ça.
Voilà. On a aussi fait un truc, on a fait une fresque sur les bavures policières. On avait dessiné Benalla, Monsieur Benalla, et il s'est permis de retweeter et de mettre Black Line a du talent. Bon, c'était une petite pique pour et on s'est dit mais comment.
Alors on voit bien l'utilisation à divers échelons, hein, l'œuvre telle qu'elle est là où elle est, puis ensuite la manière dont elle va être réutilisée. Nicolas Martin Breton, sur cette idée de la police et de ce qu'on imagine d'une sorte de violence institutionnelle, en tout cas cette réflexion qui est menée depuis en France et aux États-Unis à Minneapolis, le débat il a été tranché, on a parlé de réformer la police.
Oui, quand Christophe Castaner nie l'idée que la police est par nature violente, d'une certaine façon, il a raison. La police est ce que nous, collectivement, en faisons. Et la question que posent Black Lives Matter et les mouvements antiracistes internationaux, c'est de savoir la façon dont l'État va gouverner sa propre police. Que faire de la police? C'est cette question qui est posée et c'est la raison pour laquelle le concept de racisme institutionnel, par exemple, ou de racisme systémique est employé pour essayer de montrer que c'est moins une question d'individu qui ferait une bavure malencontreuse que d'un fonctionnement généralisé qui est légitimé d'une façon ou d'une autre par l'État. Et donc, quand Christophe Castaner prend la parole, il défend l'État. Mais c'est bien l'État qui est mis en accusation par ces mouvements. Et donc, cette question qui est posée, c'est en réalité, quel État voulons-nous collectivement, et en particulier dans sa fonction de police?
Alors, aux États-Unis, l'État, c'est les États. En l'occurrence, il s'agit du Minnesota. On va écouter Medaria Arrondo, le chef du département de police de Minneapolis.
I'm immediately withdrawing from the contract negotiations with the Minneapolis Police Federation.
Je me retire immédiatement des négociations avec les syndicats de police de Minneapolis. Je prévois d'intégrer aux réflexions des conseillers et des personnes expérimentées dans la question pour trouver comment la réforme peut être structurée vers plus de transparence envers la communauté avec plus de flexibilité. Ce dont notre ville a besoin, plus que jamais, c'est un chemin et un plan qui nous donne de l'espoir, de l'assurance et des mesures de réforme opérationnelles. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça nous prendra du temps. Mais j'ai confiance qu'en étant assez ouvert pour établir un nouveau paradigme de maintien de l'ordre et assez courageux pour identifier, pour briser les barrières qui minent les relations dans nos communautés et qui ont érodé la confiance, nous aurons un département de police que nos communautés verront comme digne de confiance, légitime et travaillant dans leur intérêt. La question de la race est indissociable du système de police américain. Cette profession n'évoluera jamais si nous ne traitons pas ces questions de fond.
If we do not address it head on.
Alors, Nicolas Martin Breton, qu'est-ce que vous pensez de ces propos, hein, une idée de changement radical quand même?
Je pense qu'il faut prendre la mesure de la radicalité, hein, de ce qui est dit. C'est tout à fait exceptionnel qu'un responsable politique puisse dire ce genre de choses aux États-Unis en validant en réalité les dénonciations et les critiques argumentées, validées par les mouvements sociaux et par les chercheurs aux États-Unis depuis des dizaines d'années. Ce qui est dit ici, c'est que la police aux États-Unis doit être réformée en profondeur, pas simplement en mettant de côté, c'est-à-dire en licenciant les mauvais éléments, entre guillemets, à l'intérieur du corps policier, mais en modifiant en profondeur le fonctionnement institutionnel de la police, afin que, eh bien, elle répondre aux besoins de la société en général.
Alors c'est un changement de paradigme qui arrive dans une période pré-électorale. Alors est-ce qu'on peut voir justement une coïncidence entre ces événements-là? Est-ce que l'affaire Floyd aurait eu le même retentissement dans un autre contexte?
Non, c'est sûr que le fait qu'on soit en ce moment dans une campagne électorale qui est extrêmement tendue avec un président sortant, Donald Trump, qui, disons, attise hein, les tensions dans le pays, alors, maintenant, mais depuis en réalité la campagne précédente, fait que l'affaire Floyd prend une dimension tout à fait extraordinaire aux États-Unis. Mais il faut bien voir que ce qui se passe aujourd'hui est en fait le fruit d'un militantisme local et peut-être invisible par des millions de personnes depuis des dizaines d'années. Donc il faut aussi prendre conscience que ces mouvements de masse sont aussi le fruit de mobilisation, d'associations sur le terrain de longue haleine.
Alors, sur la question de la continuité, Idvan Kebadian et Lasque, vous avez réalisé une fresque consacrée en hommage à Steve Maya Kanisso. Il y a eu Adama Traoré.
Oui, Steve, c'est Nantes Révoltée qui a pris l'initiative. Donc c'est eux, en fait, c'est un moment donné où on se fréquentait. Et eux, ils faisaient déjà aussi des peintures politiques, enfin, d'une autre façon. Et là, ils l'ont fait en noir et blanc, peut-être, je sais pas, pour faire écho à Black Line, mais c'est leur initiative, la fresque pour Steve. Ensuite, elle a
qui est mort noyé dans la Loire,
voilà,
à Nantes.
Ensuite, elle a été sabotée par des skinheads, enfin, par une espèce de croix celtique. Et moi, j'ai participé à la restauration et du coup, j'ai refait un deuxième mur pour que ça fasse un diptyque qu'ils avaient fait que fait la police. Et moi, j'ai fait un deuxième, donc un an après, où est la justice? Enfin, c'est eux qui ont eu l'idée de la phrase où est la justice, pour montrer que cette bavure, enfin, qui est plus qu'une bavure, en fait, elle est récurrente et régulière et c'est pas juste les corps qui sont noyés, c'est aussi la justice et qui ressort jamais de l'eau.
Quoi. Il y a une fresque qui s'appelle Bavure d'ailleurs.
Oui.
Il y a une fresque qui s'appelle Bavure.
Oui, Balance ta bavure. En fait, c'était celle, c'est celle dans laquelle il y a Benalla. C'était au moment de l'affaire Benalla, mais en fait, c'est à Nantes, il y a deux ans, j'ai oublié son nom maintenant. Un homme qui s'est fait tuer par la police. Il y a deux ans tout juste, et du coup on avait fait son portrait et avec un énorme hashtag balance ta bavure. Voilà, c'était la phrase bavure. Et ensuite il y avait une sorte de caricature de Macron qui écrivait un démocrature un peu à la Walt Disney, et toutes les scènes autour étaient des hommes casqués et armés qui étranglaient ou frappaient des gens au sol.
Quels sont les divers lieux dans lesquels vous avez fait ces différentes fresques? Je vois que ça se passe parfois sous des ponts, dans des tunnels.
Là, c'est parce qu'il pleuvait.
Ouais, il pleuvait, donc on est obligé de s'adapter.
On a changé au dernier moment de lieu. Mais ce pont-là, il est bien parce qu'il est à l'entrée de Nantes. Donc il est assez visible, mais sinon on essaye d'avoir les murs les plus visibles possibles.
Les plus visibles.
Donc on a fait dans le 20e, dans le 18e, à République. Enfin voilà, c'est ça.
Même si on a de moins en moins des murs autorisés. Ben, on essaie de trouver les murs les plus visibles.
Pour avoir l'impact, en fait, l'impact maximum. L'idée, c'est quand même d'avoir l'impact maximum de l'image. Par exemple, vous disiez tout à l'heure que George Floyd, c'était le fruit de plusieurs luttes, et là, c'est là que ça a éclaté. Ce qui a fait éclater, c'est aussi cette image qui est tellement choquante, tellement longue, et souvent, c'est un icône qui se détache d'une lutte qui dure depuis 20 ans.
L'image choquante, vous parlez de la vidéo?
La vidéo, voilà. Donc nous, on s'est dit, il faut être sur la même construction, c'est-à-dire de prendre un icône au moment où l'icône est brûlant et de le mettre à l'endroit où il a la plus grande visibilité. Comme
le boxeur d'étanger aussi.
Voilà, ça permet d'avoir un impact.
Nicolas Martin Breteau, culturellement, qu'est-ce qu'on peut dire de la question de la preuve aux États-Unis? L'affaire Floyd, est-ce qu'elle est aussi parce qu'il y a la preuve en image, une image indubitable, prise de près dans sa continuité? Il n'y a pas d'image pour l'affaire Traoré, il n'y a pas d'image pour d'autres affaires aussi états-uniennes pour le coup. Est-ce que l'image a eu une importance primordiale parce qu'elle est arrivée tout de suite en même temps que la nouvelle?
Oui, l'image est primordiale, c'est même...
La preuve.
Voilà, l'image animée. Alors la preuve, tout est discutable. Les avocats du policier pourront essayer de prouver que...
Derek Chavon.
Voilà, pourront essayer de prouver qu'il était en réalité dans son bon droit, qu'il avait raison de faire cela. Tout est discutable, en fait. La version qui l'emporte est la version qui est en général soutenue par la société. Et c'est tout l'enjeu, il me semble, de Black Line. C'est-à-dire qu'il y a un véritable combat, évidemment non violent, c'est un combat quoique, mais disons un combat non violent, un combat des mots, pour imposer dans le discours public, dans la conversation publique, un certain nombre de termes, de réalités. Par exemple, l'expression violence policière elle-même est très polémique en France, et changer les représentations collectives sur un certain nombre de sujets, ça ne passe pas sans polémique. Et au sens propre, la polémique, c'est le combat. Et donc, en soi, il me semble que l'image ou la vidéo ne prouve rien. C'est toujours une affaire d'interprétation. Et les interprétations qui, en général, l'emportent dans la société sont les interprétations majoritaires, en fait. Et c'est, me semble-t-il, le combat de Black Line, c'est-à-dire faire changer ce qui peut être considéré comme majoritaire et accepté à un moment donné.
Qu'est-ce qui se passe pour les représentations dans la rue aux États-Unis? Est-ce que les artistes de rue voient leurs murs repeints lorsqu'elles représentent les fresques ces jours-ci de George Floyd?
Alors, j'en ai pas entendu parler, donc à ma connaissance, j'en sais rien. Peut-être que...
Non.
Voilà, j'en ai pas conscience. Disons qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est sacrée.
Elle existe.
Elle existe et elle est vraiment respectée, y
les
compris...
Les murs sont très peu repassés. Ils respectent vraiment les murs
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on peut avoir des défilés de néo-nazis défilant en uniforme SS avec des croix gammées, etc. aux États-Unis. C'est-à-dire, la liberté d'expression est poussée à son maximum.
À double tranchant.
À double tranchant, absolument.
Yvonne Kibanian, sur la question des murs, vous avez évoqué le fait que les murs seraient de moins en moins libres ou de moins en moins autorisés. L'ASC
depuis qu'on fait ces Black Lines, on voit que, voilà, après notre passage, on voit... Moi qui viens du graffiti, qui avant on était des, comment dire, pas des voyous, mais on était un peu laissés pour compte. Depuis qu'on fait Black Line, j'ai vu qu'on a passé un cap. Qu'il y avait autre chose que, depuis qu'on fait les fresques politiques, la censure elle est là et les murs sur lesquels on passait, on voit que ils veulent plus qu'on, pas qu'on peigne dessus, mais ils font en sorte que, que ça se réduise. Voilà, ils donnent plus les autorisations.
Il y a eu un mur dans le 13e où c'est bloqué, quelqu'un des V13, enfin, donc un autre groupe de graffeurs qui a obtenu une autorisation, c'était pendant les Gilets jaunes. Il avait dit que ce sera un rassemblement parce qu'à ce moment-là, les lois étaient tellement plus complexes qu'il fallait même dire qu'on serait plusieurs à peindre. Voilà. Et après la fresque, donc, qui a été elle aussi censurée, c'était une deuxième fresque au moment des Gilets jaunes, le mur a été verrouillé. Enfin, ils l'ont repeint et plus personne peignait dessus, quoi.
C'est la même chose dans les autres villes de France où vous êtes aussi à Nantes.
À Nantes, à Marseille, on a fait, et aussi on a fait en Espagne.
C'est la même chose dans les autres villes?
Les murs diminuent. En fait, à Nantes, c'est les skinheads. Toutes les fresques, par exemple, celle sur George Floyd, le lendemain, il y avait marqué Antifa assassin parce que Trump avait déclaré que les Antifa étaient terroristes. Donc le lendemain, il y a quelqu'un qui a tagué notre fresque. Avec écrit Antifa égale terroriste.
Donc c'est une vraie guerre qu'il y a sur les murs en réalité.
Voilà, donc une guerre, ça s'est déplacé. Après, sur celle balance tabavure, tous les portraits des policiers ont été effacés.
Ouais. Merci, on doit s'arrêter. Merci à Takis Patine, à vous, Yvan Kibanian, l'ASC du collectif Black Lines et Nicolas Martin-Breteau d'avoir été parmi nous. Nicolas Martin-Breteau, je rappelle le nom de votre ouvrage, Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle. C'est publié aux éditions de l'EHESS. Quant au collectif Black Lines, on peut voir vos fresques un peu partout en France, sur le mur de Nantes et sur les murs aussi de Paris, bien sûr, aussi sur les réseaux sociaux. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours.
Après avoir vu le lac du Der et le lac d'Orient, nous sommes ici au large de cette vallée de la Seine, ce domaine des lacs de la Seine, entre Troyes et Chalon-sur-Marne. Et nous allons un instant nous replonger dans une France disparue, qui est la France qui va du Grand Maulne à l'après-guerre, qui est la France qui est marquée par 1914. D'abord, il y a tout près de Troyes, dans un arrondissement qui est l'arrondissement de Bar-sur-Seine, sur les bords de la Seine, un petit cimetière, qui est le cimetière des Soies. Et dans le cimetière des Soies sont enterrés les Renoirs. Alors on pense à Renoir, bien sûr, à cause de la règle du jeu, à cause de la grande illusion, qui est le grand film sur 1914. Auguste Renoir avait acheté une maison là-bas en 1895 dans le village de sa femme. Et c'est là qu'il repose, veillé par des bustes en bronze avec ses trois fils. Pierre, le comédien, qui fut aux côtés de Jouvet, l'Ulysse de la guerre de Troie n'aura pas lieu. Claude, le céramiste, qui fut d'abord le modèle de son père. Claude Renoir en clown, très belle peinture de Jean Renoir. Et puis un résistant courageux. Et puis Jean, le cinéaste, dont on oublie trop l'extraordinaire Nuit du Carrefour, où son frère Pierre fut le meilleur commissaire Maigret porté jamais à l'écran, envoûté par Vina Winfried, et qui mourut à Beverly Hills, d'où il fut ramené ici, à Essois, au pays de son enfance. Il y a un manège à l'école militaire qui porte le nom du commandant Bossu. Bossu, à l'école militaire à Paris, Bossu, commandait en 1914 un escadron du 1er régiment de dragons où servait Jean Renoir. Et une blessure de guerre devait le rendre boiteux jusqu'à la fin de sa vie. Et le capitaine de Boieldieu, de la Grande Illusion, doit, paraît-il, un assez grand nombre de ses traits, tels qu'on le voit interprété par Pierre Fresnay, au commandant Bossu. Et puis, ces années-là, c'est aussi les années où s'est formée l'expérience qui a donné lieu à un des livres les plus extraordinaires sur la guerre de 14. Un livre qui commence par un voyage manqué vers Troyes, près de là où nous sommes, et qui s'appelle « Ceux de 14 », qui est le grand livre de Maurice Genevoix. Jeune normalien, se destinant à l'enseignement, rien en lui du reître ou de l'amateur de combat, Maurice Genevoix est mobilisé le 2 août 14 comme lieutenant de réserve à la 8e compagnie du 106e régiment d'infanterie. Combattant de la Marne et des Éparges, grièvement blessé en 1915, il quittera le champ de bataille pour écrire ce livre qui deviendra « Ceux de 14 ». Ce qui est étonnant, c'est qu'il faudra assez longtemps à ce monument d'humanité, d'intelligence et de style pour se frayer un chemin entre ces véritables épaves littéraires que sont le Feu de Barbus ou les Croix de Bois de Dorgelès, qui lui furent longtemps préférées parce qu'elles bénéficiaient simplement du soutien d'associations communistes ou patriotiques beaucoup plus puissantes et qui présentaient de la guerre, au fond, le visage que l'opinion voulait en avoir. Ceux de 14 est à l'opposé et défie absolument le commentaire et interdit toute forme d'utilisation politique. Il ne s'agit pas simplement d'un récit, il ne s'agit pas d'un roman, et on s'en convainc dès les 10 premières pages en lisant cet épisode qui se passe à peu près exactement où nous sommes, à 2 ou 3 kilomètres près, qui est la présentation sandwich en main à un général peut-être ruffet entre 3 échalons. Suivent un voyage en train qui rappelle les vers d'Aragon, les réfugiés, les regards qui se croisent, des soldats qui montent au feu et de ceux qui en reviennent, le sommeil mêlé des artilleurs et de leurs chevaux, la tristesse des blessés, et puis les paysans hostiles aussi qui, très loin de la mythologie, exigent indemnité et réparation au moindre bris de clôture. Le lieutenant Genevois croit que, de là où nous sommes, il va être dirigé vers Troyes, sur les bords de la Seine, mais c'est à Verdun qu'il va, et il écrit « Croyez donc ce qu'on vous dit, ce mot, c'est la première tinette. » La tinette, qui définit les seaux dans lesquels on met les déjections, c'est à la fois les latrines et le mensonge officiel. On se demande bien ce qui a gardé enfoui ce chef-d'œuvre, peut-être l'allure de son auteur qui serait mieux aimé s'il était mort en jeune, en dormeur du Val, ou s'il s'était survécu dans l'allure d'un officier énigmatique et lettré à la Junger, au lieu de terminé comme un bon petit vieillard adonné aux grandeurs d'établissement, secrétaire perpétuel et coiffé du bicorne à plumes. Et puis il y avait chez Genevois aussi ce côté un peu Rabolio, cette esthétique de chasseur français, littérature de maroquinard qui n'est pas toujours extrêmement réjouissante. Et pourtant, ceux de 14, quand on le referme, eh bien on prend du petit vieillard en uniforme vert, une idée toute différente. On voit, on souffre, on espère, on entend. On ne sait pas si c'est le champ de bataille qui ressemble à une symphonie de phrases courtes ou si c'est le récit qui se fait communiquer par une sorte de perfusion la vie si fragile de l'auteur jusque dans ses ingrédients les plus matériels. Et nous y sommes. Nous y sommes partout. Pas seulement à la Marne, mais à toutes les Marnes et dans tous les souvenirs de tous ceux qui ont connu des batailles. Dans l'écho que le temps renforce, la paix revenue, les bruits de la guerre, formant cette espèce d'indestructible mélodie qui élève entre ceux qui ont connu ces moments et le reste de l'humanité un mur infranchissable. Que précisément, et c'est la grandeur de ce livre, l'art de Genevois abat par pans entiers. C'est alors que la vie mêlée de mort qu'il décrit devient la nôtre. Nous sommes ce jeune homme et cet écrivain. Nous découvrons la victoire ou la défaite apprise par hasard au détour d'un bois. La guerre est une porte conforme en soi-même et hors de soi-même. Et de l'autre côté, nous attendent des sentiments nouveaux. Et d'abord celui-ci que Genevois décrit magnifiquement, que si le corps peut beaucoup, il est absurde de lui demander autant. Et que cet absurde pèse le poids du drap uniforme, de sa douleur, surtout sous la pluie, de l'écœurement qu'on éprouve à en rester vêtu le jour comme la nuit, par tous les temps. Au fond, l'uniforme tel que Genevois le décrit, c'est une drôle de tunique de Nessus, elle porte les médailles, le fer blanc de l'honneur, l'empreinte des balles, l'odeur des cadavres en putréfaction, la sueur glacée des paniques, la succession des intempéries qui sont le lot du fantassin. L'uniforme, c'est tout ce qui reste d'un homme menacé de dispersion, de décomposition. De retour à cette nature anéantie par l'industrie de la guerre, dans le retournement des paysages et la chute des grands arbres. Genevois écrit « Il semble qu'un remous énorme se creuse à la place même où s'épanouissait sa ramure, un remous dans quoi tourbillonnent des myriades de choses légères, pêle-mêle dans un nuage de poussière dont parvient jusqu'à nous l'âcre senteur de temps. » La guerre est d'abord une hallucination. Genevois parle admirablement des hommes qui ont partagé avec lui ce cauchemar, Comte, Pamchon, Vautier, auquel la discipline militaire fait comme à lui une étrange seconde nature jusqu'à l'instant où le destin frappe. Et il écrit cette phrase bouleversante. « Vous tous qui l'avez fait, vous savez, si c'est un dur voyage. La nuit vient, au-dessus de soi, contre soi, on devine d'autres brancards où s'allongent des formes humaines. À chaque chaos, elle crie. On s'énerve de les entendre. On se dit « Pourquoi ces hommes crient-ils si fort ?» Un autre chaos, plus violent, fait monter des cris plus farouches. L'un de ces cris a retenti tout près. « Qui est là ? Qui a crié ?» Et l'on songe tout à coup. « C'est moi. » Entre 3 échalons sur Marne, nous pensons à toute cette expérience, à toute cette douleur humaine que la coupole du Panthéon, si jamais on l'y transporte, ne parviendra jamais à étouffer complètement.
«
C'était la chronique de François Sureau. On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été autour de l'ouvrage de Seam Boutata, La mélancolie du Macnin et L'oiseau dans la ville. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Djergaillan, Lou Quevauvilliers, Henri Leblanc, Judith Kravitch et Mathieu Bellini, à la réalisation Marie Placé, à la technique Jean-Guilain Meige. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application de Radio France. À 18h15, vous retrouverez Le temps du débat présenté par Emmanuel Laurentin. Et aujourd'hui, Covid-19 pour l'épidémie. Comment l'épidémie nous surprend encore? Il est bientôt 14h sur France Culture et ça va être l'heure de retrouver Les Pieds sur Terre, présenté par Sonia Kronlund.